Allez, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce matin Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la Tribune, face à vous Emmanuel Ariol. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Raphaël.
Professeur d'économie à la Toulouse School of Economics et Benoît Durini. Bonjour Benoît.
Bonjour Raphaël.
Directeur général de Manpower avec qui on va parler emploi tout à l'heure et il y a évidemment. Bon, d'abord, un petit tour de table pour commencer. La question qu'on pose toujours à, et je reçois également, il vient d'arriver, Xavier Durand. Bonjour Xavier, le directeur général de la COFAS. Bienvenue sur le plateau des experts. Allez, je commence avec vous, Xavier, pour commencer un tour de table rapide à tous. La question qu'on se pose toujours quand on se croise dans les allées ici, c'est comment vous trouvez l'ambiance ? Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est une sorte de baromètre de la tension du monde économique. Qu'est-ce que vous avez retenu des discussions hier ? Je commence avec vous, Xavier Durand, directeur général de la COFAS.
Aix-en-Provence est toujours un endroit où, en très très peu de temps, on rencontre une très bonne part de représentatifs du système économique français. Et donc, beaucoup de discussions, beaucoup d'intérêt autour de l'innovation et des questions à la fois d'innovation, de géopolitique, d'investissement. Beaucoup de curiosité, je crois qu'il y a beaucoup de changements dans le monde. Et donc un débat qui est dynamique, qui est vif, et qui se pose, je crois, beaucoup de bonnes questions.
Oui, la révolution qui nous attend, nombreuse. Emmanuel, la même question.
Oui, alors tout à fait, hein, je rejoins ce qui vient d'être dit. Donc d'un côté, il y a des inquiétudes portées par une transformation technologique majeure qui est l'IA, hein, qui est un bouleversement digne de l'informatique et de la révolution industrielle. Hein, c'est une vague incroyable. Donc ça crée une inquiétude. Il y a aussi des tensions, il y a la guerre dans plusieurs zones du monde, et en même temps une forme d'espoir, parce que l'Europe se relève un peu, il y a cette idée de construire une défense européenne, il y a une idée d'investir dans la recherche et le développement. Donc Aix est un peu ce creuset où on essaye à la fois d'analyser ce qui se passe et puis de voir un peu le futur avec un œil plus optimiste.
Le baromètre des inquiétudes et des espoirs à venir, vous partagez cette analyse, Benoît Durini?
Moi, je trouve que c'est un événement qui ne cesse de monter en puissance, vraiment.
Ah oui,
et cette année encore plus. On voit vraiment que ça s'installe comme le moment de respiration de l'été, avant que chacune et chacun prenne quelques vacances. Et donc, c'est toujours un point de l'année à mi-parcours. Et cette année en particulier, on s'y retrouve l'ensemble du monde économique au sens large, hein, y compris la recherche. Et c'est devenu vraiment un temps très fort et, à mon avis, incontournable désormais.
Ouais. Et des rencontres, Ludovic, très politiques cette année aussi. Ouais, hein, c'est le défilé des candidats.
Ouais, donc, Édouard Philippe, Gabriel Attal et tout ça.
On attend aujourd'hui, oui. Ouais.
Moi, ce qui me marque, je sens une inflexion. Je ne sais pas si vous l'apercevez, Raphaël, mais je la ressens. C'est-à-dire que l'année dernière, on était en plein droit de douane, l'année dernière, rappelons-nous.
C'était la guerre commerciale à tous les étages.
Ouais. Là, évidemment, il y a des échanges, il y a des tables rondes sur ce qui ne va pas, les freins et tout ça. Mais on sent une inflexion dans le discours. Et je pense que c'est assez préparatoire à la présidentielle. C'est-à-dire un peu, il faut aussi y croire. Parce que, à force d'être défaitiste, la présidentielle le résultat risque d'être très, très douloureux.
Vous sentez une forme de volontarisme?
Oui, parce que c'est vrai qu'on se fait mal, surtout dans ce pays, en France, on aime bien se faire mal. Il y a des choses qui vont pas, on va en parler, la dette, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des pépites, il y a aussi des possibilités, il y a des chemins possibles. Et là, je sens que, au travers des échanges, des magnifiques tables rondes et tout ça, je sens une énergie en train d'arriver en disant, voilà, il y a des chemins possibles et arrêtons de nous faire mal, parce que, on sait qu'une des clés aussi, c'est de relancer la conso, de faire que ce pays déverrouille l'épargne et tout ça. Et voilà, je pense que cette année, il y a un peu plus envie d'y croire. Parce que, on est à 10 mois d'une présidentielle et cette présidentielle, évidemment, évidemment, j'allais dire, il y a deux bords qui inquiètent extrêmement le monde économique et qu'on vit, sur lequel on n'a pas envie de plonger. Ouais. Et là, il y a une perception et je pense que maintenant, il faut un peu positiver.
Oui, alors parmi les sauts de haie, il y a le budget hein, qui arrive. L'actualité économique ce matin est extrêmement budgétaire, Emmanuel Auriol. Alors je le disais, le discours de Sébastien Lecornu hier, avec cette annonce surprise, on s'y attendait absolument pas. Un discours qui a été plutôt salué d'ailleurs par l'ensemble des gens que j'ai pu croiser. Mais cette annonce sur cette mesure, inspirée par Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie qu'on vient de recevoir sur le plateau de BFM Business, qui est de contraindre assez fortement les grandes fortunes, il parle des milliardaires, hein, Philippe Aguillon, à orienter une partie de leur capital au moment de la transmission vers des fonds d'intérêt public, réindustrialisation, défense, l'un de vos sujets de prédilection, Emmanuel Auriol. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Je crois qu'on a des efforts devant nous énormes et l'acceptabilité de ces efforts est très faible dans notre pays. On ne peut même pas geler les retraites un an quand l'inflation est à 2%. Enfin, je veux dire des choses très simples. Hein. Je ne parle pas de les couper à 20%. Donc, il y a un vrai problème politique et on ne peut pas faire avaler aux Français encore des efforts fiscaux, parce que c'est ça qui est question, si les plus riches ne contribuent pas. Donc, je crois que cette question de la justice fiscale, et notamment de ceux qui sont les plus fortunés, se pose. Après, il faut faire attention parce qu'on est dans un monde ouvert, qui reste ouvert, et on est un des pays qui taxons le plus déjà le capital. Donc on doit le faire intelligemment. Je pense que le Cornu a été habile et qu'il propose quelque chose qui est sans doute, enfin qu'il faut explorer, parce que bon, la taxe Zucman, personne en veut.
Mais voilà. Non, mais donc, très clairement, c'est-à-dire qu'il propose une alternative à la taxe Zucman sur le capital.
Voilà. Mais des plus hauts.
Il a reconnu, hein, Benoît Durini, qu'il avait perdu en quelque sorte. La bataille de l'hégémonie culturelle, si on veut reprendre les termes de Gramsci, évidemment Gabriel Zucman, qui a inondé tous les plateaux médiatiques après la démission de François Bayrou pour imposer cette thématique. On a un peu tardé à voir la réponse du patronat. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez pu avoir aussi?
Alors, moi, ce que je trouve extrêmement satisfaisant dans tous les échanges qu'on voit et les sujets qui montent en pression, c'est qu'en fait, le sujet de l'emploi et du travail revient au centre des discussions, parce que c'est le point d'entrée ou le point d'équilibre entre les discussions sur le modèle social et les différents points de vue, le sujet de la compétitivité, le sujet du le travail paye ou ne paye pas.
Le pouvoir d'achat, évidemment, rapproché du salaire brut du net.
Et donc, en fait, c'est le retour de la thématique du travail et de l'emploi qui était plutôt passé au second plan, qui revient au centre à travers toute une série d'enjeux sur lesquels, de toute évidence, il y a un consensus sur les enjeux. Évidemment, il y a des différences sur les réponses.
Oui.
C'est tout l'intérêt, à mon avis, de la séquence de respiration démocratique qui s'annonce.
On va y venir tout à l'heure. Xavier Durand, un même mot sur ce combat pour l'hégémonie culturelle entre la fiscalité du capital de l'autre et puis peut-être un modèle plus anglo-saxon de charity, de donation du côté des grandes richesses.
C'est-à-dire qu'on a pris conscience, et on le voit bien, que on a besoin de capitaux. L'innovation qui est en train de se produire nécessite des investissements qui sont incroyablement élevés. Oui. Et c'est le gros point, je dirais, de faiblesse de l'Europe, hein, par rapport aux États-Unis, c'est que souvent les innovations sont d'origine européenne. La technologie, on a, une recherche, etc., et des savoir-faire qui sont très forts. Mais quand il s'agit de passer à l'échelle, quand il s'agit d'industrialiser et de démocratiser, ça demande des capitaux énormes et l'Europe n'est pas bien organisée pour faire ça. Donc je pense que, encore une fois, la recette, on peut en discuter, mais arriver à orienter ces capitaux et à les mettre au travail en Europe, c'est ça le gros enjeu.
Là, vous posez la question de l'union des marchés de capitaux, très clairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même profondeur, évidemment, de marché qu'aux États-Unis et on en paye le prix, on continue à en payer le prix. Est-ce que vous pensez que cette union des marchés de capitaux va pouvoir émerger à un moment au niveau européen?
Je l'espère, je le souhaite. Je crois que ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, c'est-à-dire les tensions accrues avec les États-Unis sur le digital, avec la Chine sur l'industriel, font prendre conscience à l'Europe qu'il faut qu'on bouge.
Oui.
Et je crois que, dans un sens, elle nous aide. C'est toujours dans les moments de difficulté que l'Europe réagit. Alors, ça va pas assez vite, on n'est pas très très bien organisé, ça prend du temps du fait du fédéralisme européen, mais on voit des choses qui se mettent en place.
Alors, fédéralisme, pas encore, mais une gouvernance, en tout cas, entre États-nations, effectivement.
Tout à fait.
Qui fait qu'on a du mal à avancer vite, en tout cas, oui.
On a du mal à avancer vite, mais on avance, on voit des efforts qui sont parfois bilatéraux, parfois multilatéraux, qui concernent, je ne sais pas, la défense.
Alors allons-y, on est là aussi pour nourrir l'optimisme parfois, souvent autour des experts. On déplore ce manque de rapidité, cette latence au niveau européen, mais qu'est-ce qui va bien? Ça m'intéresse aussi beaucoup, Xavier Durand.
Je crois que
on cartographie ça à la COFAS.
Non, mais on cartographie ça. Alors, l'Europe fait face à une croissance faible. C'est clair, mais l'Europe a les technologies. L'Europe progresse doucement. On voit des secteurs comme la défense. On voit des choses qui se passent. Et petit à petit, ça se met en place. Alors, je crois que c'est vraiment une question de rythme. C'est vraiment une question de prise de conscience du public, mais aussi des politiques. Parce qu'il y a beaucoup de freins, mais je crois que l'Europe, petit à petit, est en train d'aller dans le bon sens. En tout cas, il y a des choses qui, pour moi, se débloquent progressivement. Et que je crois qu'on, qu'on avait vu un peu figé pendant un certain temps.
Il y a un mot qui a été répété plusieurs fois par Sébastien Lecornu, pas que, par un autre ancien Premier ministre, Dominique de Villepin aussi, c'est le mot de souveraineté hier. On entend beaucoup, beaucoup parler de souveraineté désormais aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui était un peu un gros mot. Hein. Il y a encore 10 ans en arrière, on était davantage dans un logiciel de libre-échange. Est-ce que c'est ce que vous constatez, Emmanuel Auriol ?
Alors, la souveraineté pour l'Europe, c'est vrai qu'on a une croissance faible, mais on a des handicaps énormes, on n'a pas d'énergie. Et quand on regarde les données longues, hein, la croissance...
On a des centrales nucléaires.
Voilà, alors j'allais y venir pour la souveraineté. La France a des atouts, notamment ce programme nucléaire qu'on n'a jamais abandonné, contrairement à l'Allemagne. Hein, ils ont fait des erreurs historiques, alors ils y reviennent.
On va en parler dans la seconde partie de l'émission du modèle allemand.
Mais quand même, cette souveraineté, donc d'abord, elle sera énergétique. Parce qu'on ne peut pas avoir de croissance sans ça. Le fait qu'on ait développé en France et qu'on continue à vouloir financer le nucléaire, par exemple, avec l'épargne des Français qu'on évoquait, hein, le livret A notamment. Donc il y a cette idée de servir la France avec une épargne très forte. C'est pas l'innovation, mais c'est au moins un verrou qu'on doit absolument débloquer. Et ça nous permet d'attirer en fait du capital, notamment par exemple des stockages de données qui sont très très énergivores, qui cherchent des endroits où c'est relativement stable l'approvisionnement, et le nucléaire c'est très très stable, et décarboné parce que c'est un des critères européens. Et l'Europe, je suis d'accord, est lente, mais elle a un côté efficace, c'est un paquebot, hein. L'inertie est très forte, mais elle est efficace dans le sens que quand elle met des règles, eh ben, elle les fait respecter. Et je pense il faut pas oublier qu'on est une des zones économiques les plus riches au monde. Bon, c'est là où il y a les consommateurs. Et ça, c'est un atout que nous avons. Donc il y a des choses très bonnes, et je crois qu'il faut qu'ici, on dise aussi, on a des coalitions entre pays, voilà. C'est pas forcément tous ensemble maintenant, mais suffisamment de coalitions de bonne volonté pour avancer collectivement, parce qu'on est menacé de toute façon. Donc on doit y aller.
Bon allez, l'heure du rebond européen, français et peut-être européen, Ludovic.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Emmanuel, parce que je trouve que dans la souveraineté, là aussi il y a une transition. C'est-à-dire l'année dernière, quand on était là, il faisait encore un peu plus chaud. La souveraineté, on était à l'époque des droits de douane, enfin le choc de Donald Trump.
Oui.
Et là, on mesurait, j'allais dire, la partie vertige de la souveraineté, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas. Les terres rares, et puis
nos dépendances
aussi, voilà, la dépendance. Oui. Et là, on a un changement, parce qu'on commence aussi dans la souveraineté. La souveraineté, c'est on est dans une logique d'affrontement, d'interdépendance, et on commence à mesurer ce qu'on a ou ce qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie, mais je pense aussi à l'aéronautique, je pense à la défense, je pense au quantique. On n'a pas tous les matchs, on peut pas jouer tous les matchs, mais et dans la souveraineté, il faut aussi s'apercevoir des arguments qu'on peut avoir. Et puis, il y a l'argument dont Emmanuel a raison, c'est-à-dire qu'on est dans une zone continentale qui est riche, qui représente un marché colossal, avec une épargne dont la gestion de l'épargne, ça, on pourra y revenir, c'est tout un dossier, mais en tout cas, il y a une capacité malheureusement qui ne ruisselle pas, mais qui est phénoménale, et on a un effet de levier qui pourrait être fantastique. À nous de jouer maintenant, à nous de jouer.
À nous de jouer. Xavier Durand, je rappelle, vous êtes directeur général de la COFAS. Je voulais qu'on fasse un peu ensemble la cartographie des risques à venir, le message que vous pouvez adresser aux chefs d'entreprise qui nous écoutent en direct sur BFM Business pour l'année 2026-2027. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder ? Qu'est-ce que vous disent vos clients ?
En fait, c'est devenu presque impossible de faire des prévisions à court terme ou à moyen terme qui tiennent. Le message, essentiellement, c'est de dire, depuis 2019, depuis le Covid, on a vu une succession de crises. On est dans un espèce d'état de permacrise.
C'est la permacrise.
C'est la permacrise. Donc c'est devenu presque impossible.
Même depuis la crise financière de 2008, en réalité.
Un petit peu, oui.
Mais en fait, ça a rendu les entreprises plus résilientes, ça, quand même.
Alors, ça oblige les entreprises à revoir leur échelle de valeur et de se dire, je vais pas tout miser sur un scénario, je vais voir large. Et je vais devoir bâtir de la résilience, de la redondance dans mes process, dans mes chaînes d'approvisionnement, etc. Ça a un coût, mais ça a aussi un bénéfice.
Oui.
Et puis, je dirais, il y a une deuxième notion pour moi qui est importante, c'est de dire, si vous voulez bien faire à long terme, il faut faire bien tous les jours à court terme. Alors là, je reviens un peu au métier de la COFAS, parce que nous, on assure les entreprises contre le risque de défaillance de leurs clients, donc une échéance de 2-3 mois, et on procure des données aux entreprises pour leur permettre d'avoir de la donnée fraîche et de prendre des décisions quotidiennes qui amènent pas un gros pépin opérationnel qui, lui, est un gros problème quand il s'agit de résilience à moyen terme.
Ah oui. Hein,
voilà, donc c'est vraiment ça, à mon avis, le focus. Donc il y a un coût, on le voit dans l'économie, on voit que ça ralentit. Il y a un coût à la résilience, mais il y a un bénéfice à moyen terme à le faire bien.
Bon. On pourra plus longtemps. Même chose, Benoît Durini.
Je voulais rebondir sur la résilience. Moi, je partage entièrement ce point de vue. Je trouve que le changement qu'on voit, c'est les deux mots clés maintenant, c'est résilience, c'est-à-dire être capable d'encaisser un imprévu, et il y en a encore eu un avec le Hormuz il y a 3 mois.
Oui.
Et en même temps être agile pour saisir les opportunités, parce que quand il y a une fenêtre d'opportunité, ça dure pas longtemps. Voilà. Et donc on voit bien que le maître mot
est résilience et opportunité.
Agilité, c'est résilience pour encaisser les chocs et agilité pour saisir les opportunités. Et quand on en vient, et c'est le point que vous évoquiez sur les chaînes de valeur, moi je trouve que c'est très clair. Il y a eu toute une période où consistait à optimiser au maximum sa chaîne de valeur entre l'endroit où j'achète, je produis et je vends,
oui,
pour optimiser économiquement la chaîne. Là, le sujet, c'est moins ça. Évidemment, il y a un enjeu économique, mais c'est surtout d'optimiser la résilience de ma chaîne de valeur, parce que comme je ne sais jamais où ça peut et où peut y avoir un incident géopolitique, il faut que ma chaîne de valeur soit résistante et résiliente. Ça peut peut-être me coûter plus cher, mais en revanche, ça me coûtera beaucoup plus cher si à un moment ou à un autre, j'ai une rupture dans ma chaîne de valeur. Et ça a une conséquence, et je reviens à la souveraineté, c'est que ça peut avoir une conséquence, et c'est positif, évidemment, en ce qui concerne la réindustrialisation, c'est-à-dire, oui, le rapatriement d'un certain nombre d'éléments de production dans ma chaîne de valeur pour les sécuriser en France ou sur des pays sur lesquels on a une certitude géopolitique.
C'est une dynamique qu'on voit, ça, Ludovic. Mais,
ce que dit Benoît est important, parce que on a été un peu idiots quand même. J'ai l'air dans la mondialisation à flux tendu, mais qui était vraiment, c'était une peau de tambour. C'est-à-dire que on a pris, évidemment, tout que fonctionne, c'est merveilleux. Là, on s'est aperçu.
On a optimisé les supply chains.
On a suroptimisé. C'est-à-dire qu'on a optimisé dans un monde qui n'existe pas, de bisounours, tous bras dessus, bras dessous. Là, le monde a changé. Et ce que dit Benoît est extrêmement important, parce que il y a une compréhension, mais j'allais dire, il y a une recompréhension de ce qu'est une activité. Je pense notamment à l'industrie, je pense aux matières premières, aux intrants et autres. C'est-à-dire de se dire maintenant, en fait, il faut de la visibilité. C'est-à-dire qu'on peut pas juste piloter dans des logiques de flux. Maintenant, il faut construire. Je pense qu'il y a une compréhension de la part des décideurs, des patronats, ces derniers mois, et peut-être que si tout ça se termine bien, à la fin on remerciera la Chine, on remerciera Donald Trump, parce que ce sont des lignes de fragilité qui à un moment ou à un autre elle est claquée. Donc, et cette prise de conscience, elle est probablement salutaire. Elle va poser des questions profondes. Elle va poser des questions profondes sur certains secteurs. Je pense par exemple à la santé.
Oui.
C'est vraiment une question extrêmement profonde sur l'accès aux molécules et autres. Mais ce point-là fait que probablement on est en train d'acheter de la visibilité économique, et la visibilité économique, c'est quelque chose de très très précieux.
Oui, Xavier Durand, vous confirmez?
Oui, moi je partage ce propos. J'avais deux observations. Le premier, c'est que le commerce mondial fait preuve d'une incroyable résilience qu'on lui a mis quand même.
Il a continué de progresser l'année dernière, faut le dire.
Donc vous pouvez mettre des sanctions, vous pouvez avoir des conflits géopolitiques, vous pouvez mettre des tarifs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On dit chez Coface, le commerce c'est comme l'eau, ça trouve un chemin. Hein, et je crois que donc d'une part, la capacité à se réinventer, à se réorganiser est incroyable. Et je pense qu'il faut pas oublier ça. Et donc il faut en tenir compte et la deuxième chose que je dirais, c'est que l'improvisation ou la réactivité, ça se travaille. C'est un muscle qu'il faut exercer au quotidien ou dans les entreprises pour s'entraîner à changer en temps réel quand les événements se produisent, puisqu'on ne sait pas les prévoir. Donc il y a vraiment des questions de culture, d'organisation, et je partage votre point de vue. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est dans un sens bénéfique sur le moyen terme, parce que tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Hein.
Emmanuel, une réaction?
Oui, alors je voulais rebondir justement sur le fait que le commerce international n'a pas faibli, ce qui montre qu'on n'est pas si dépendant que ça, en fait. On n'a pas besoin de faire des stocks de trucs qui existent par ailleurs sur la planète, parce que de toute façon, on est imbriqué commercialement avec le reste du monde, même avec des pays où on a des zones où on a des tensions. Moi, ce que ça a remis en question, l'épisode récent, c'est un peu la vision des Lumières du doux commerce de Montesquieu, l'idée que, et la construction européenne, c'est ça, c'est si on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. Eh bien, ce n'est pas vrai. On peut faire un pipeline entre l'Allemagne et la Russie et quand même avoir la guerre, ce qui, pour moi, est vraiment une source de choc, parce que je pensais, en tant qu'économiste, que l'intégration économique était un facteur de diffusion de la paix. Et ce qui a été vrai, hein, depuis la guerre froide jusqu'à
une période... On a vécu une période de prospérité, ouais, d'échange et de paix.
Mais ce n'est pas complètement vrai. Il ne faut pas oublier l'idéologie. Ouais. Mais vraiment, c'est un truc... voilà. Mais on est quand même intégré. Donc, on n'a pas besoin de faire des stocks de tout. Honnêtement, la souveraineté, ça doit être intelligent. Ça doit être sur certains secteurs. ça doit pas être voilà, j'accumule dans mon garage, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas ça la souveraineté. Oui.
Je voulais un dernier mot sur le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous avez confiance en la réouverture ou pas? Et puis un dernier mot sur l'IA.
Je dirais que vous savez, cette crise, elle a démarré, on ne l'a pas vu venir. Elle a duré plus longtemps que certains disaient. Elle est peut-être en train de se calmer, mais je dirais peut-être parce que...
Prudence.
Il faut être prudent. On revient au thème précédent. Personne ne sait ce qui va exactement se passer. Et ce qu'il faut, c'est savoir résister.
Oui.
Moi, j'ai un commentaire sur le commerce international. Je pense qu'il n'est pas une protection absolue contre la géopolitique, mais ça aide. Parce qu'on est imbriqué, donc on voit bien que les intérêts réciproques sont quand même de continuer à commercer. Le bénéfice global tiré par l'humanité du commerce est immense. C'est pour ça que c'est résilient.
Et d'ailleurs, voilà, l'issue de la guerre avec l'Iran, c'est lié au commerce, en fait. Et donc, on veut avoir la paix à tout prix parce que ça perturbe tout le monde. Donc.
Au commerce, aux midterms, et puis un peu au taux des marchés aussi obligataires qui peuvent mettre la pression.
Oui, mais c'est lié. Je suis d'accord. Le doux commerce, c'est une notion quand même. Voilà, qu'on fait du commerce, on ne fait pas la guerre.
Bon, Benoît Durinier, on parle de où sont les risques en 2026-2027 pour l'emploi. Je voulais terminer avec vous. Où sont les risques sur le chômage augmente en France, on le sait. Et puis il y a cette révolution, cette vague qui arrive, qui s'appelle l'IA, et dont on ne sait pas encore de quel côté va retomber la pièce. On craint pour beaucoup de métiers quand même, et notamment pour les jeunes. Alors vous êtes plutôt optimiste ou inquiet?
Moi, je vais vous dire trois mots. Je dirais, il y a une dégradation de la situation de l'emploi, incontestablement, et c'est clairement dû au PIB, donc à l'activité économique.
Oui.
Ça, comme souvent dans des parties, pas de récession, mais de ralentissement, c'est évidemment les jeunes diplômés, quand ils rentrent sur le marché du travail, qui sont souvent les premiers en première ligne sur ce sujet-là, d'où l'augmentation du taux de chômage. Mais il y a un magnifique amortisseur qui s'appelle la démographie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, compte tenu du mur démographique et d'un certain nombre de départs, en réalité, c'est ça qui fait qu'on a un taux de chômage qui est aujourd'hui à 8,1, et évidemment, c'est trop élevé, mais il n'est pas, et probablement il ne sera pas, à 10,5 ou 10,6 comme on a connu en 1996, je crois, ou 2016, un truc comme ça. Donc ça, voilà.
Là, vous êtes en train de nous dire que le chômage à moyen terme ne sera plus un sujet en réalité. Avec la pyramide des âges.
Et je dis du coup que l'enjeu, moi, pour moi majeur, c'est le renouvellement des générations et le transfert des compétences. Et on passe d'un marché de l'emploi à un marché des compétences. Ça veut dire que concrètement, la génération qui va partir progressivement dans les prochaines années a une expertise. Comment faire pour que cette jeunesse et ceux qui vont rentrer sur le marché de l'emploi transmettent sur un point en particulier, on va reboucler sur la souveraineté, sur tous les métiers manuels et techniques.
Oui.
L'industrie au sens large a besoin d'expertise manuelle technique. Je ne parle pas forcément d'ingénieurs, je parle de techniciens supérieurs, de compétences industrielles. Et c'est la même chose dans la construction. C'est des métiers qui s'apprennent avec l'expérience. Quand on part à la retraite, il faut pouvoir transmettre.
Et, oui.
Et je pense qu'un des enjeux majeurs sur le marché de l'emploi et du travail sur les années qui viennent, ça va être cette transmission pour réussir à passer ce mur démographique dans une période où justement... on a besoin de réindustrialiser ou de remettre sur le territoire un certain nombre de compétences industrielles.
Bon, voilà Lulian, Génération, vous souhaitiez réagir, Emmanuel?
Oui, parce que je pense que ce qu'il vient de dire est très important, qu'il y ait une transmission sur le lieu du travail de métiers manuels, parce que l'IA, pour l'instant, on ne va pas prendre les métiers manuels, c'est la bonne nouvelle. Et le problème, c'est la faillite de l'école, parce qu'on a les classements internationaux qui montrent qu'on est complètement nul. On est pire que nous en maths, il n'y a que le Chili dans les pays de l'OCDE.
Oui.
D'accord ? Donc l'Angleterre...
Il y a des marges de progression.
Oui, mais donc ça veut dire la formation initiale, elle n'est pas bonne en France. Hein. Nos enfants sont mal formés et on a des jeunes au chômage parce qu'ils sont NEETs. Hein. Ils n'ont aucune qualification, ils ne savent rien faire. On en a beaucoup plus que dans les autres pays. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et je ne sais pas comment l'entreprise peut... voilà, c'est la notion d'apprentissage, mais peut pallier à ce genre de manque. Mais je suis assez sensible à cet argument de transmission. Je crois que c'est important.
Bon, les jeunes qui sont un sujet majeur aussi dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ici. Merci à tous les deux. Merci Benoît Durinier, directeur général de Manpower. Et merci Xavier Durand, directeur général de la COFAS. On se quitte pour une petite minute et on se retrouve juste après. On va parler de l'Allemagne, de l'explosion de son modèle économique et des réponses allemandes qui sont en train d'être apportées. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.